Aveu spontané, une enquête de l'inspecteur Barre par Michel Corry. Chapitre 1er. L'assassinat de M. Doré. Chez Mademoiselle Nora, je vous prie. Le patron de l'hôtel ouvrit la porte du bureau du côté de la cuisine et demanda : Fanny, la chambre de Mademoiselle Nora. Nora, la locataire de ce matin, c'est au second, le 13. Au second, le 13, répéta le patron. M. Doré fit un signe de tête qui voulait être un remerciement et monta l'escalier dont la rampe s'enfonçait dans le noir. M. Doré portait, à l'ancienne mode, une barbe blanche qui apparaissait vénérable. Il était vêtu avec recherche, témoignant d'une élégance un peu désuète avec ses guêtres claires, son paletot noir et son pantalon à rayures. Il tenait à la main un petit paquet ficelé qui venait tout droit de chez le confiseur et serrait contre lui une bouteille enveloppée dans du papier et dont émergeait le goulot argenté. Une bouteille de champagne. Ainsi, M. Doré représentait exactement ce type, alors déjà périmé, de ce qu'on appelle encore le vieux beau. On devinait facilement que ce vieillard d'aspect si digne allait passer quelques instants dans l'intimité d'une femme qu'on pouvait juger d'abord et de mœurs faciles. Arrivé au second étage, il s'arrêta un instant sur le palier pour souffler et frappa légèrement la porte. « Entrez !» fit une voix musicale. M. Doré entra, sourit, et déposa sur la table son champagne et ses gâteaux. « C'est gentil d'avoir pensé que je suis gourmande. »« Bonjour, cher petit ami, » fit M. Doré. Et il commença tout de suite à lutiner la femme. Celle-ci était en toilette d'intérieur avec son peignoir pourpre dont une cordelière de soie nouait la ceinture, une ceinture large qui, pour se dénouer, ne réclamait point un rude effort. « Je vais préparer le petit goûter, » fit la femme. « Nous allons commencer par là. « Ma toute belle, » répondit M. Doré. Il ferma la porte de la chambre qu'en entrant il avait laissée ouverte, et du palier ou de l'escalier, on ne pouvait plus rien entendre de la conversation dont on devinait facilement la suite et la terminaison. Le lendemain matin, M. Doré était trouvé assassiné. Plus personne dans la chambre que lui, lui seul. M. Doré était pendu. Il se balançait au bout d'une cordelette de soie attachée à une corde solide qui passait par une poulie fixée au plafond. L'autre bout de cette corde était attaché à l'espagnolette de la fenêtre, derrière les doubles rideaux. C'était Adrienne, la femme de chambre, qui avait découvert le cadavre. Il était 11 heures. Elle avait frappé à la porte pour aller faire le ménage sommaire qui est d'usage dans les locaux meublés. Personne n'avait répondu à son appel. Alors, elle avait ouvert avec son passe-partout. Tout d'abord, elle ne vit rien. Les volets étaient restés fermés et une ombre confuse baignait la pièce. Puis, son regard s'habituant à l'obscurité, elle avait distingué le corps suspendu dans le vide. Tremblante de peur et sans observer plus avant, elle avait dégringolé l'escalier en criant au secours. Les locataires sortaient de leur chambre à son appel. Le patron apparaissait en bras de chemise et Madame Fanny en petit corsage du matin. « Qu'est-ce que c'est ? C'est le monsieur d'hier chez Madame Nora. Eh bien, il l'est pendu. » Il se balance en l'air. « Nom de Dieu !» fit le patron. Déjà, il y avait des locataires dans la chambre. Ils s'apprêtaient à dépendre, M. Doré. « N'y touchez pas, ne touchez à rien. Il faut attendre la police. »« Des fois qu'il ne serait pas mort, » dit un homme. « Ça ne fait rien. Il faut attendre tout de même pour les constatations. » fit le patron, qui avait toujours très peur de la police. « Fanny, va prévenir au commissariat. » « Est-ce qu'elle a bien fait sa fiche ?» Qui ? Et parbleu, la fille, celle qui a fait un coup pareil. Je crois, oui, dit la patronne en regardant dans le registre où elle trouva une fiche qu'elle se mit tout de suite à recopier. Son mari lisait derrière son épaule. Nora, Nora Mathieu. Ça n'est peut-être pas son nom, tu penses, venant de... Ah, elle n'a pas répondu à cette question-là. Nous voilà frais. Tu aurais dû faire attention. Qu'est-ce que je pourrais penser ? Une femme qui avait l'air bien. Elle avait des bas de nylon, un chapeau avec une vraie aigrette. Elle a donné le pourboire tout de suite à Adrienne. « C'est bon, Phil, on verra ça plus tard. » Un quart d'heure après, le commissaire était là avec son secrétaire et deux inspecteurs. « Personne ici, faites-moi sortir tout ce monde-là. C'est vous le patron, arrivez. » Et regardant le pendu, « Ah, sacrebleu, mais je le connais ce bonhomme-là. » Ça devait lui arriver un jour ou l'autre. Tout de même, c'est une drôle de mécanique. Un inspecteur avait ouvert les volets jusque-là demeurés clos. Le commissaire examinait la cordelette, la poulie, et la victime, la face violette au bout d'une coulant. Maintenant, c'est le service d'identification de la préfecture. Un agent traînait un gros appareil photographique à pied. L'inspecteur principal, Cléomène, de la police judiciaire, qui était habitué à ces opérations, procédait après le commissaire du quartier aux premières constatations. Sur la table, on retrouvait les reliefs d'un goûter, des miettes de gâteau. « Et on dit que la pâtisserie est interdite !» fit plaisamment l'un des inspecteurs. Mais sa plaisanterie n'eut pas d'écho. Deux verres étaient sur la table, deux verres grossiers. Dans l'un, celui de la femme, semblait-il, restait un peu de champagne. La bouteille était presque vide. Le commissaire interrogeait maintenant le patron qui semblait fort ému. Lui, d'habitude, si plein d'assurance et même au besoin d'insolence, répondait d'une petite voix douce qu'on ne lui connaissait pas. Il prenait grand soin d'appeler les policiers par leur titre. « Oui, monsieur le commissaire. Après vous, monsieur l'inspecteur. » Le commissaire coupait court. « Chambre 13, bon. Ça ne lui a pas porté bonheur, ce numéro-là. Qu'est-ce que c'est, le locataire de cette chambre ?»« C'est une locataire, monsieur le commissaire, une dame, Nora Mathieu. Qu'est-ce qu'elle fait ?»« Elle a marqué « sans profession » sur sa fiche. »« Sans profession. » Elle est facile à deviner, sa profession. Quand est-elle sortie ? La nuit, bien sûr. J'étais couché, comme de juste. On ne peut pas être réveillé 24 heures sur 24, n'est-ce pas ? Je n'ai rien entendu. D'où venait-elle, cette femme ? Ah, ça, je ne sais pas. Quoi, et sa fiche ? Le patron entrait dans de grandes explications embarrassées. Ce n'était pas lui. On lui avait fait faire sa fiche, et tout de suite encore, avant même son entrée. Seulement voilà, justement, elle avait oublié de répondre à cette question. On ne s'en était pas aperçu tout de suite. On était occupé à autre chose. Dans le commerce, n'est-ce pas ? Enfin, il y avait bien un homme autour de la victime avec la femme dans la chambre. Ce n'était pas elle qui avait tiré la corde ni qui avait monté toute cette mécanique. Quel était cet homme ? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Il a dû monter sans qu'on le remarque. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu, la fiche n'est pas complète. Vous m'avez l'air d'un drôle de taulier encore, vous, monsieur le commissaire. Taisez-vous, montrez vos livres. Et avisant un inspecteur, « Moreau, allez voir ça de près. Saisissez le registre. Cléomène, où en êtes-vous ? On a dépendu le Maccabée. Il est frit. Ses poches sont vides, retournées. Pas de portefeuille. Il devait avoir une montre avec sa chaîne. La boutonnière supérieure du gilet est arrachée. Il n'a pas de clé non plus sur lui. Pas de carte d'alimentation. Pas de carte d'identité. Rossa. On sait qui c'est. Il est connu dans tout le quartier. Nous sommes ici rue Lepic. C'est un voisin. Il habite rue Colincourt, un vieux coureur de femmes. Et de quelle femme ?
Riche ?
Demanda Cléomène. Il passe pour tel. C'est un homme qui avait des moyens. Un bel appartement, un ancien notaire de banlieue, à ce qu'on dit.
Bon homme. Mais il avait ce défaut-là.
Il le paye.
Il n'a pas non plus d'épingle de cravate.
Il en portait sûrement une.
Laissez un inspecteur de planton avec deux agents. Il faut aller chez lui.
Pas de femme ?
Veuf, à ce qu'on dit. Mais attendons le parquet.
Il est prévenu. Les magistrats n'en finissent jamais d'arriver. Ils envoient la police judiciaire.
Et après, ils prennent leur temps.
Comme pour lui donner un démenti, les magistrats du parquet arrivaient. Mais c'était pour mettre une délégation régulière à un commissaire de la police judiciaire dont Cléomène était le subordonné et qu'il chargeait de la lui remettre. L'après-midi eut lieu la descente au logis de M. Doré. Son appartement lui ressemblait. Un mobilier démodé et strictement astiqué. Chez lui, une vieille femme de ménage venait chaque après-midi. Elle arrivait par l'entrée de service en même temps que les policiers entraient par le grand escalier et forçaient la porte, accompagnée de la concierge éplorée. Par exemple, le malheureux. Elle concluait, comme avait fait le commissaire du quartier, « Ça devait lui arriver, avec ses fréquentations. » Dans l'appartement, pas de désordre, mais une cassette où M. Doré déposait ses valeurs et ses billets était sur la table, grande ouverte. La clé était restée sur la serrure. « Ce pauvre monsieur, » disait la femme de ménage, « cette clé-là ne le quittait jamais. » La concierge se rappelait avoir donné le cordon la veille dans la nuit, fort tard, à quelqu'un qui n'avait pas dit son nom. Mais beaucoup de locataires négligeaient cette formalité. Par contre, on ne le lui avait pas demandé pour sortir. Le voleur, qui était aussi l'assassin, avait dû attendre que la porte de la rue fût ouverte, choisir son moment et sortir sans être vu. À une heure matinale, c'était chose facile. La concierge ouvrait à 7 heures. La reconstitution était simple. M. Doré était arrivé la veille, à la fin de l'après-midi, chez Nora, qui avait loué la chambre le matin même. Elle n'avait pour bagage qu'une petite mallette légère. L'hôtel de la rue Lepic louait à la journée pour des amours rapides et discrètes. C'était la spécialité de la maison.
Monsieur Doré et Nora avaient goûté, puis... Puis il ne s'était rien passé, probablement. Monsieur Doré n'avait pas eu le temps. Un homme, l'amant de la femme, était caché. On entrait facilement dans cette maison meublée dont les hôtes de passage n'aimaient point être vus. Dans la journée, il avait monté sa mécanique, comme disait le commissaire. La cordelière de Nora, fort solide, avait une boucle robuste en forme de crochet. Comme par jeu, elle avait faim de s'amuser à en ceindre le col du vieux monsieur. En même temps, elle avait accroché l'autre bout de sa cordelière à la corde pendante derrière les rideaux, là où se cachait l'amant. Celui-ci avait tiré la corde passée dans la poulie, et M. Doré, étranglé, soulevé, n'avait pu faire ni un mouvement, ni pousser un cri. Après sa mort, le couple était parti. Pas de veilleur de nuit. La porte de l'hôtel s'ouvrait du dedans par une simple targette. Système pratique pour le départ de l'homme rassasié de caresses ou de la femme pressée de regagner son logement. Cette fois, l'homme, après avoir dépouillé la victime, lui avait ravi ses clés, s'était rendu dans son appartement, dont il avait trouvé l'adresse dans le portefeuille, peut-être même l'indication de l'étage, à moins que Nora ne l'ait su. Peut-être avait-elle été déjà chez lui, quelques soirs. Là, l'assassin avait cherché, trouvé, ouvert la cassette qui était classiquement dans l'armoire à glace de la chambre à coucher. Il l'avait vidée de son contenu, et maintenant il était loin, et la femme aussi. Mais quel était cet homme? Quelle était cette femme? Tel était le problème qui restait à résoudre. Chapitre deuxième. Ce qu'avait entendu M. Ruffin. Monsieur le commissaire n'était pas content. Chaque fois qu'il y avait une affaire intéressante, un beau crime par exemple, c'était toujours la même chose. Il avait à peine eu le temps de faire quelques constatations hâtives que le juge d'instruction, tard arrivé, cependant avec le procureur ou un substitut de service, passait l'affaire à la police judiciaire par commission rogatoire. Le magistrat instructeur se décharge ainsi de la partie active de l'affaire, se réservant les interrogatoires sensationnels. Le commissaire aux délégations judiciaires, à son tour, passait la main à un inspecteur principal. En l'espèce, c'était aujourd'hui l'inspecteur Cléomène, qui était à la fois un madré et un dur. Il ne redoutait qu'une chose, c'est, si l'affaire traînait, de se voir à son tour remplacé ou supplanté par un de ses as du service. Il avait donc résolu de faire vite. Mais il s'était trouvé devant un mur. Ce qu'il savait, c'est ce que la logique lui enseignait. La déduction était facile. Seulement, ce n'était pas les faits qu'il avait à rechercher, mais les coupables. Il lui fallut pour cette recherche des détails sur l'exécution du crime. Or, personne n'avait rien vu, rien entendu. D'ailleurs, la clientèle de la maison était flottante. C'était un lieu de rendez-vous clandestin. Les maris, voire les dames mariées qui venaient trouver là un discret refuge, n'étaient pas disposés à aller se compromettre et faire savoir à leur famille ou même à leurs voisins leurs petites histoires intimes. Quant au patron et à sa femme, évidemment, ils ne savaient rien. Ils eussent été trop contents de pouvoir rendre service à la police afin de s'éviter des ennuis prévisibles. D'ailleurs, le commissaire du quartier avait commencé par leur octroyer une série de contraventions. Pour défaut de fiches ou insuffisant de tenue de livres journaliers. Pour avoir accordé l'accès dans le meublé à des inconnus, du moins l'un d'eux et qui était un criminel, pour défaut de fermeture de la porte après 10 heures du soir. Mais cela n'avançait pas les affaires de l'inspecteur Cléomène, et encore moins celles du commissaire dépossédé de son information. C'est alors que celui-ci eut un matin une forte émotion et même une grande espérance. Un certain M. Ruffin demandait à le voir d'urgence relativement à l'assassinat de M. Doré, dont les journaux avaient déjà tiré plusieurs articles sensationnels. Aussitôt introduit, M. Ruffin donna ses références. « Monsieur le commissaire, dit-il, je suis un honnête homme, et la preuve, c'est que je suis ici. J'aurais très bien pu ne pas venir, et même, comme vous le voyez, j'ai hésité. Ne me jugez pas trop mal. Il m'arrive de fréquenter cet hôtel discret de la rue Lepic, où je rencontre une dame pour qui j'ai quelque tendresse. Mon cas n'est pas pendable, n'est-ce pas ?» Le commissaire fit un geste indulgent et esquissa même un sourire. Je puis justifier non seulement de mon identité, mais encore de mon honorabilité. Je suis horloger, établi depuis 20 ans dans le quartier, successeur de mon père et de mon grand-père. Voyez les papiers, vérifiez. Au fait, monsieur, au fait, je ne suis plus le dossier de cette affaire qui est confié maintenant à la police judiciaire, service des délégations. Mais je peux prendre vos déclarations pour les lui transmettre. Et puis, il pensait que quand on tenait un témoin, il était imprudent de le lâcher. Il pouvait réfléchir, se raviser. « Allons-y, dit-il, je vous écoute, parlez. Monsieur le commissaire, Je vous ferai donc un aveu, j'ai une amie. Ce n'est pas un aveu, c'est une confidence. Enfin, cette dame, pour bien des raisons, je ne peux pas la recevoir chez moi. Oui, vous allez à l'hôtel, passons. Et cet hôtel est celui de la rue Le Picou, où M. Doré a été assassiné. Vous savez quelque chose sur l'assassinat? Oui. Et sur les assassins? Oui. Parlez, monsieur, parlez. Je voudrais bien être assuré qu'on ne me recherchera pas pour faire des dépositions publiques. Ah, ça! Considérez, monsieur, que c'est un devoir du citoyen de servir la justice. Oui, mais si j'ai des embêtements en servant la justice, cette justice s'en fiche. Vous comprenez? Je ne veux pas être déconsidéré dans mon quartier. Je comprends parfaitement. Je ferai mon possible. Si l'on peut vous dispenser de témoigner aux assises, lorsque les coupables seront arrêtés. Ce que je désire, c'est que la dame qui est mon amie ne soit pas embêtée et qu'elle reste inconnue. Elle n'est en rien mêlée à l'affaire. En rien du tout. Je dirais même, au contraire. Je l'attendais cet après-midi-là. Elle n'est pas venue. Alors il ne sera pas question d'elle. Cela, je vous le promets. Bon. Alors voilà. J'avais donc, comme je vous le dis, rendez-vous avec cette dame à cet hôtel, comme ça nous arrive de temps à autre. On m'avait donné la chambre 14 qui est contiguë à la chambre 13. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes. Ce n'est pas ma faute si j'entendais ce qui se disait dans la pièce voisine. Je me rendais compte que les personnes de la chambre 13 ne se doutaient pas qu'il y avait quelqu'un à côté d'eux. Je n'avais pas fait de bruit en entrant. La patronne m'avait remis la clé. J'entendais la voix d'une femme et d'un homme. Monsieur Doré? Non. Monsieur Doré n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Ah, il y avait quelqu'un avec la femme. Un homme, son amant sans doute, l'assassin probablement. Oh, certainement. Il parlait tranquillement. La femme racontait qu'elle avait acheté une ceinture. Elle lui montrait sans doute son emplette, car il disait « c'est de la bonne qualité ». Elle ne lui disait pas dans quel magasin elle avait fait son acquisition. Non, je n'entendais pas tout, et puis je ne prêtais pas d'attention à ses propos sans intérêt. Je ne pouvais pas prévoir. Je dois vous dire que la chambre 14 est la seule d'où l'on puisse entendre ce qui se passe dans la chambre 13. Celle-ci est contre la cage de l'escalier, et en face, c'est la lingerie. Il y a eu un moment, sinon de silence, du moins de conversation qui m'a échappé. J'entendais vaguement qu'on parlait de rideaux, de cordons à tirer. Et puis on parlait aussi de quelqu'un dont je n'ai pas saisi le nom. Ce nom, cependant, est revenu à plusieurs reprises. C'est quelque chose comme Ouffé. Si bien que d'abord j'avais cru qu'il parlait familièrement de le repas, de manger quelque chose, oui, bouffer. Ne parlait-il pas plutôt d'étouffer, étouffer quelqu'un? Non, c'était bien un nom, quelqu'un que l'homme avait l'air de connaître. Mais c'est vague. Puis, un moment après, on a frappé à la porte et j'ai entendu une voix distinguée et aimable, une voix qui m'a semblé aussi être celle d'un vieil homme, d'un vieux monsieur, pour bien dire. Je pensais que l'autre, celui qui était là avant ce monsieur, et qui n'avait pas du tout la même voix, une voix jeune, mâle, mais pas vulgaire. Je pensais que celui-ci avait dû partir sans que je l'entende. Je me disais même, il est parti à temps. La voix du vieux monsieur, donc, parlait. « Bonjour, cher petit ami. » Il avait apporté quelque chose pour un goûter, car la femme avait dit, « C'est gentil d'avoir pensé que je suis gourmande. » Elle a même ajouté ensuite, « Je vais préparer le petit goûter. » À quoi le vieux a répondu, « On va toujours commencer par là. » ou quelque chose comme cela, qui faisait prévoir ce qui allait suivre. Alors, dame, à ce moment-là, je l'avoue, j'ai écouté. Vous en auriez fait autant, monsieur le commissaire. Ne me mettez pas en cause, je vous prie. Pardon. Alors, à ce moment-là, j'ai entendu des petits cris. Comme on pousse les femmes quand on les chatouille ou qu'on les pince, vous savez ce que c'est. Poursuivez. À partir de ce moment-là, j'ai tout entendu. Il faut vous dire que j'avais collé mon oreille au trou de la serrure. Bien. Pas si bien que ça. Ce n'était pas très délicat. Je m'en rends bien compte. La nuit commençait à tomber. La dame disait, on se croirait dans un tunnel. Je vais allumer parce que les hommes dans un tunnel, ils sont si polissons. Et j'ai vu un filet de lumière qui filtrait sous la porte. Elle avait allumé l'électricité. Elle disait aussi, oh, des gâteaux au moka, je les adore. Et 10 000 feuilles au kirsch, ce que je préfère. Ils sont rudement bons. Et on entendait le choc des verres. Elle disait « Encore, c'est du bon. » Et M. Doré? M. Doré ne disait rien. Je crois qu'il s'occupait, car à un moment, elle dit, un peu énervée, « Assez, je n'aime pas qu'on me tripote quand je suis occupée à manger ou à boire. Il y a un temps pour tout. » Alors la conversation tombait. Puis elle a repris. Elle disait « J'ai bien vu tout de suite quand je vous ai rencontré l'autre jour que vous étiez quelqu'un de bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous devez être dans les affaires, banquier, avocat. Vous avez une belle épingle de cravate. C'est une vraie perle. Et ensuite, elle s'est mise à raconter une histoire sur des bijoux qu'elle avait ou qu'elle avait eus. « Moi aussi, racontait-elle, j'en avais des perles, tout un collier. On me l'avait volé dans le train de Nice. J'étais en première. J'allais à Monte Carlo. Est-ce que vous connaissez Monte Carlo ?» Monsieur Doré a répondu « Très bien, j'y vais tous les ans. » Alors la femme a aussitôt changé de conversation. J'ai compris qu'elle racontait des blagues et qu'elle avait peur que ce monsieur lui parle de ce pays qu'elle ne connaissait pas. Tout à coup, elle a poussé un petit cri comme ça. Il a ajouté « N'empêche pas de boire. Ce coup-ci, on y est dans le tunnel. » Puis elle a eu un petit rire et elle a dit, sans doute en buvant, « À nos amours. » À ce moment, j'ai regardé l'heure à ma montre. Il était plus de 7 heures du soir. 7h12 exactement. J'étais en retard. J'avais rendez-vous avec un client à 7h30. Et à cette heure-là, je savais que mon ami ne viendrait plus. Alors je suis parti. Je regrettais, je me disais que ça commençait à devenir intéressant. Et c'était encore bien plus intéressant que je ne le pensais. Bref, vous me dites tout ce que vous avez entendu? Oh, tout. Pour ça, je vous ai tout dit, monsieur le commissaire. Et vous n'avez rien vu, rien du tout? Non. Vous n'avez pas eu la curiosité de regarder un peu par le trou de la serrure quand vous y avez collé votre oreille? C'est-à-dire que... Monsieur Ruffin souriait, l'air gêné, vaguement confus. « Allons, voyons, dites !» l'encourageait le commissaire. « Eh bien oui, là, un peu. Ils étaient si près. Je les entendais, j'ai regardé. À ma place, vous en auriez fait autant. « Ne me mettez pas à votre place et restez à la vôtre !» fit le commissaire assez sèchement. « Qu'avez-vous vu ?»« Eh bien, il ne se passait rien du tout. Je parle d'avant le moment où l'électricité s'est éteinte dans leur chambre. » C'était certainement elle qui avait tourné le commutateur, car il y avait de la lumière dans l'escalier quand je suis sorti. Je n'avais pas allumé dans ma chambre. Ils auraient vu par le bas de la porte qu'il y avait de la lumière, et ils se seraient tus. Qu'avez-vous vu? J'ai vu M. Doré assis dans le fauteuil. La femme était assise sur une chaise et elle tournait le dos à la fenêtre de droite dont les rideaux étaient tirés. Ceux de gauche étaient ouverts. Quand j'ai fait les premières constatations, les rideaux des deux fenêtres étaient fermés. Ils les ont donc fermés après le crime qui a été commis certainement dans la quasi-obscurité, lors de la soi-disant panne. Vous avez vu la femme, la reconnaîtriez-vous? Oui, si je la revoyais. Elle est grande et mince, très brune, le teint pâle. Un détail, elle ressemblait beaucoup à Madame Calista, la vedette de cinéma. Vous la connaissez? Je ne l'ai jamais vue, mais je connais ses affiches. C'est tout à fait cela. Mais ce n'était pas elle. Vous pouvez en être sûr, d'autant que Calista ne ressemble pas à ses affiches, ou ne leur ressemble plus. Elle a plus de 50 ans. Enfin, c'est un détail intéressant. Je regrette que vous n'ayez pas assisté au drame. Moi aussi. Je ne pouvais pas rester seul dans cette chambre, sinon j'aurais tout entendu. Et ce pauvre monsieur aurait eu la vie sauve. Quand je pense que si Augustine ne m'avait pas posé un lapin... Oh, j'ai lâché son nom. Augustine, ça restera entre nous. Confidentiel, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Chapitre 3e. Un livre sur une étagère. L'inspecteur principal Cléomène, penché sur son dossier, était de fort méchante humeur. Plus maussade encore qu'on ne l'était l'autre jour, le commissaire du quartier du crime, à qui l'affaire de l'assassinat de M. Doré échappait. Il disait à son collaborateur intime, son homme de confiance, l'inspecteur Savin, « Ça va mal, nous sommes dans le cirage, et pour comble, le patron vient de me sonner les cloches. Le commissaire du quartier a découvert un témoin. Cet animal-là, je parle du témoin, aurait pu venir nous trouver. Au lieu de ça, il va raconter son histoire à la police municipale. Ah, qu'est-ce que je vais lui passer à ce particulier-là? » De fait, quand M. Ruffin arriva à Tourguilleret, commença à se sentir quelque peu fier d'être mêlé discrètement à une affaire sensationnelle. Il s'attendait à une réception aimable. N'apportait-il pas son concours à la justice? Il entamait son petit préambule explicatif et d'apparence modeste quand l'inspecteur principal Cléomène lui coupa la parole. « D'abord, qu'est-ce que vous faisiez dans ce coupe-gorge? Une femme? Quelle femme? Tâchez de rien dissimuler et de dire la vérité. Votre affaire n'est pas claire. » « Oh, si on peut dire. Moi qui risque ma situation pour faire mon devoir de citoyen. Monsieur le commissaire, lui, l'a bien compris. Pas de phrases. Vous n'êtes pas dans un poste de police ici. On ne nous bourre pas le crâne. Nous sommes la police judiciaire. Tenez-vous-le pour dit. C'est vous qui prenez des jetons de maths dans les meublés ?
Oui, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Des jetons de maths, enfin,
qui regardaient par le trou des serrures pour surprendre les gestes intimes des personnes. Vous êtes un vicieux ou un monomane.
En voilà des façons. Expliquez-vous maintenant.
Mais M. Ruffin, terrifié, ne disait rien, n'osait plus parler, désolé de s'être mis dans un tel cas.
Il n'eut pas moyen de lui tirer un mot.
J'ai tout dit à M. le commissaire, qui a été très gentil, et pourtant je le regrette. Ce n'est pas ma faute si je suis mêlé à cette affaire. Ce n'est pas moi qui ai assassiné M. Doré. Je n'en sais rien.
Et il le congédia en lui recommandant, l'air menaçant, et tâchez de vous tenir à la disposition de la justice.
Puis il alla s'épancher auprès de son subordonné et ami Sabin.
Ça va mal, de plus en plus mal.
Cet idiot de témoin ne veut plus rien dire. Le patron me fait une drôle de tête, et je vois Paul Barre entrer et sortir de chez le chef, le cigare aux dents et le chapeau sous sa tête, comme chez lui. Je crois que je ne tiendrai pas cette affaire longtemps.
Cléomène ne se trompait pas. Une heure ne s'était pas écoulée que Paul Barre était devant lui tendant son étui à cigarette.
Nous allons collaborer dans cette affaire dorée, fit-il.
Et comme Cléomène, dépité, la mine navrée, lui tendait le dossier.
« Non, gardez ça. Restez dans l'affaire. J'ai besoin de vous. Nous allons faire du bon travail. Et je veux que le chef sache que le service que vous nous rendrez. »
Cléomène se détendait. Travailler avec Paul Barre. Paul Barre qui travaillait toujours tout seul.
Déjà, il souriait. Il prit le cigare.
« Que pensez-vous faire ?»«
Vous demandez de m'aider. Vous connaissez votre métier. Vous avez un lot remarquable d'indicateurs. En réunissant tous ces gars-là, que je ne connais pas et avec qui je ne fais jamais rien, vous allez savoir quels sont les types susceptibles d'être des spécialistes de l'assassinat en cabane, comme vous dites. Il faut me trouver le beau souteneur, pas vulgaire, rien du voyou, ayant assez d'influence sur les femmes pour ne pas hésiter à se mettre en équipe avec elles. Et ayant pour maîtresse unique, on ne fait pas cela avec un dessous, une brune, grande, mince, ressemblant à la fiche de Calista.
Ah, vous connaissez déjà le dossier.
Le chef m'en a dit l'essentiel. Je compte sur vous. Vous pouvez y compter.
8 jours après, Cléomène avait, comme il disait, son carnet d'adresses. Tout ce qui, dans la pègre parisienne, répondait au signalement donné par Paul Barre, y était inscrit.
« Maintenant, dit-il, ce n'est pas tout. Comment se débrouiller là-dedans? Ces gens-là ne vont pas vous faire leur petite confidence.
Je ne vais pas les leur demander. Il me faut un mandat de perquisition chez chacun d'eux. Et faire vite cette fouille, je veux en être. »
Le soir, Paul Barre avait 33 mandats de perquisition signés par le juge d'instruction éberlué, mais qui n'avait pas osé les refuser à Paul Barre. On le savait capable de voir le ministre de la Justice, qu'il tutoyait, et d'obtenir de lui tout ce qu'il voudrait. Les perquisitions commencèrent tout de suite. Paul Barre ne semblait pas s'occuper des inspecteurs qui opéraient. À peine avait-il commencé à vider l'armoire à glace et à répandre le linge sur le parquet qu'il les arrêtait.
« Ça va, assez pour celui-là, un autre. »
Et il poussait son monde à vitesse dans la voiture.
« On va en faire beaucoup comme ça, » osa lui demander Sabin.
À la surprise générale, Paul Barre, qui était d'humeur charmante, répondit
« C'est bien ce qui m'ennuie, quand je pense qu'il faudra peut-être aller jusqu'au 33e. »
On était chez le 7e, un grand garçon au visage énergique, au trait régulier, bien vêtu, dans une bonne chambre d'un hôtel convenable, personnage que Paul Barre n'avait même pas regardé. Quand, à peine le premier tiroir de la commode était-il ouvert, que comme ailleurs il interrompit la perquisition.
Ça va, assez pour lui.
Mais il ne dit pas « un autre », il dit « emballez cet homme-là ».
Cléomène le regardait, étonné.
Alors Paul Barre, se tournant vers l'homme, lui dit poliment
« Je ne vous arrête pas, monsieur. Je désire seulement que vous nous accompagniez. J'ai quelques renseignements à vous demander. »
L'homme conduit à la sûreté fut tout de suite interrogé par lui.
Interrogatoire banal. Renseignement d'identité. Réponse vague de l'homme.
D'abord,
je proteste. Je ne suis pour rien dans aucune affaire. Pourquoi m'arrêtez-vous?
Je vous ai déjà dit que je ne vous arrêtais pas.
Pourquoi m'interrogez-vous? De quoi s'agit-il?
Je n'irai pas vous le cacher. Il s'agit du crime de la rue Lepic.
Je ne sais rien de ça.
Vous avez une maîtresse?
Comment s'appelle-t-elle?
J'en ai plusieurs.
Bien.
Je n'ai pas de temps à perdre.
Sabin, occupez-vous de ce monsieur.
Faites-le reposer dans la chambre de sûreté.
Restez, Cléomène.
Pourquoi avez-vous piqué ce type-là? Est-ce qu'on reprend la perquisition?
Non, elle est faite. Et même, c'est moi qui l'ai faite.
Vous? Allons donc. Vous êtes entré, vous avez pris un bouquin sur une étagère, vous avez lu 10 lignes dessus, et vous avez fait le bonhomme.
Eh oui,
j'ai trouvé ce que je cherchais.
Maintenant, vous allez l'interroger.
Moi, je n'ai pas le temps.
Il ne dira rien, j'en suis sûr.
Et pourtant, il est coupable. Mais ne le lâchez pas avant mon retour, c'est tout ce que je vous demande. « Écoutez, monsieur Paul Barre, vous n'êtes pas un inspecteur comme les autres, c'est entendu. Vous êtes chez nous par goût. Vous n'avez pas besoin de vos appointements pour vivre, et vous les abandonnez en les versant intégralement à notre caisse de secours. Tout ça, c'est très bien. Mais vous êtes mon collègue tout de même. Je suis honoré de travailler avec vous parce que vous êtes un grand as. Mais moi, je veux comprendre ce que je fais. » « Vous avez parfaitement raison, mon cher collègue, et j'allais vous le dire. Le petit livre que je lisais, le voici. » Paul Barre tira de sa poche une publication illustrée. La couverture y représentait un monsieur qui portait toute sa barbe et qui, dans une chambre, était suspendu à une corde accrochée à une poulie. Le titre portait « L'affaire Gouffée ». Ce nom qui est tellement intrigué, ce pauvre monsieur Ruffin. Et Paul Barre en lut à Cléomène plusieurs passages. C'était le crime qui fut fameux en son temps et maintenant bien oublié, de Michel Hérault et de Gabriel Bompard, couple d'aventuriers qui, le 26 juillet 1889, assassinèrent l'huissier Gouffet en le pendant à une cordelière de peignoir de la femme, cordelière attachée à une forte corde passée dans une poulie et suspendue au plafond. Gabriel Bompard avait, pour le compte de son amant Hérault, attiré la victime dans ce guet-apens. Puis, après le crime, Michel Hérault, qui avait manœuvré l'appareil de pendaison, avait pris les clés de l'huissier, avait pénétré la nuit dans ses bureaux et avait enlevé la caisse. « Écoutez ceci, » dit-il à Cléomène. Et Hérault enfonce le clou dans une poutre formant traverse. Il fixe la moufle et la poulie. Il dispose la corde, adapte à son extrémité le porte-mousqueton, fait manœuvrer le tout, comme M. Daibler en use en dernière heure avec sa guillotine, pour s'assurer de son bon fonctionnement. Gabriel Bompard prépare aussi, à l'extrémité de sa cordelière, une sorte de nœud coulant. Le peignoir est là, prêt à être endossé. Michel Hérault installe le rideau pour s'en faire une cachette. Et, achève Paul Barre, Michel Hérault a été condamné à mort par la cour d'assises de la Seine le 16 décembre 1890 et Gabriel Bompard à 20 ans de travaux forcés. Hérault a été exécuté le 3 février 1891. C'est curieux. J'avais en effet entendu parler de la malle à Gouffée, dans laquelle les assassins avaient enfermé le cadavre, mais je ne savais pas comment cet homme avait été tué. Je me le rappelais. Et après la découverte du crime, j'avais pensé que les assassins, qui avaient si exactement imité Michel Hérault et Gabriel Bompard, devaient avoir lu, et sans doute posséder, le livre qui raconte son crime. De là, les perquisitions. Dès que j'ai trouvé le bouquin chez l'un d'eux, je me suis dit « je tiens le coupable ». Vous le tenez. Mais nous n'avons pas la preuve. Il nous faut l'aveu. Ce garçon-là, Maxence Kerek, le beau Max, est un dur. Il est intelligent, on ne l'aura pas facilement. Maxence Kerek, c'est drôle. Je ne savais même pas son nom. Vous savez, une fois que j'ai deviné l'énigme et découvert le coupable, le problème pour moi est résolu, le reste. Et il eut un geste négligent. Le reste, c'est l'aveu, fit Cléomène, et il sourit. On va lui faire un petit tour à la chambre des aveux spontanés. Mais je vous le répète, c'est un dur. On ne l'aura pas. » Paul Barre lui saisit le bras. « Pas de violence, je ne veux pas. Je l'aurai, moi, le beau Max, je les aurai, moi, ces aveux, et de vrais aveux spontanés. » Chapitre 4e, évocation. « Mademoiselle, mon collègue l'inspecteur principal Cléomène a bien voulu vous recommander à moi. Il paraît que vous avez réussi, pendant la guerre, au deuxième bureau, des missions difficiles. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. J'ai dit à Cléomène, il me faut une jeune femme mince et jolie. Pour cela, vous êtes en règle, mais j'ai ajouté, il la faut brune et pâle. Vous êtes blonde et votre teint est de rose. Enfin, j'avais dit encore, qu'elle ressemble le plus possible au portrait de Callista sur son affiche. C'est un petit tour de force à accomplir. J'ajoute que si vous ne ressemblez pas tout à fait à ce modèle, cela n'aura pas une si grande importance. Je peux être brune et pâle. Je peux même ressembler à Callista. Si la mode exigeait cela, la moitié des femmes y parviendrait. J'imagine que le reste de ma tâche sera plus difficile. Bon, vous avez accompli d'autres exploits plus périlleux. Il y a une comédie à jouer. J'ai fait du théâtre. Je n'étais pas trop maladroite. Avez-vous joué des rôles d'amoureuse? Dans la vie ou sur les planches? Dans la vie, nécessairement, c'est plus difficile. Ça dépend. Si c'est pour un homme, les hommes sont si bêtes. Oh, pardon. Si vous saviez comme je suis de votre avis... Revenez demain, nous réglerons le détail. Il s'agit, je vous préviens, de faire pendre un assassin. Je suis policière. Ce n'est pas très reluisant, croit-on, pour une femme. Enfin, c'est mon goût. Mais il y a des choses que je ne ferai pas. Par exemple, être la maîtresse d'un homme qu'on me désignerait. surtout si c'est pour le livrer. Vous ne devrez pas être sa maîtresse, et c'est lui qui se livrera. En ce cas, je vous attends demain, pas allez brune. Au revoir, mademoiselle Olga. » Le beau Max passe dans un complet rutilant avenue des Champs-Élysées. Il y a un mois que M. Doré a été assassiné. Le beau Max, d'ailleurs, s'est défendu énergiquement d'avoir été pour quoi que ce soit dans ce crime. « Je sais pourquoi vous me cherchez, » a-t-il dit à l'inspecteur Cléomède. « C'est parce que vous savez que j'aime les femmes brunes et pâles quand elles sont grandes et qu'elles sont minces. Tout Montmartre sait cela, et comme c'est une femme de ce gabarit qui a fait le coup, on l'a relâchée. Le temps a passé, l'affaire est classée, la vie est belle. Et ce petit tour, chaque fin d'après-midi, sur la voie triomphale. » Mais Maxence Kerek s'ennuie un peu. « Nora, » pense-t-il, « elle a pris peur. Elle l'a, elle, le gabarit. Elle a filié à l'étranger. Prudence, pas de lettres, pas de nouvelles. Cela vaut mieux ainsi. C'est une fille sûre. La tête sous le couperet, elle ne dira rien. La tête sous le couperet, bon. Cette seule évocation lui fait froid dans le cou. Une belle brune, pâle, grande et mince. Il a rencontré cela l'autre jour entre la rue Balzac et le rond-point. Et depuis, il passe par là tous les jours. Il sourit à la belle fille quand il la revoit. Elle lui a rendu son sourire. Un soir, on a pris le porto au Fouquet's, puis le cocktail au bar, et puis, tous les soirs, ensuite. On a même dîné ensemble dans un américain de luxe. C'est le beau Max qui a réglé l'addition. Avec lui, cela commence toujours ainsi. Ensuite, on verra. Mais il n'a rien obtenu. Pas ça. Seulement, il y a de l'espoir. Samedi prochain, vers la fin de l'après-midi, on goûtera chez la dame. Tous les espoirs sont permis. La dame ne les a pas découragés, au contraire. Le beau Max compte les jours. Il est pourtant accoutumé au succès, mais cette fois, sera-t-il pincé? Ce samedi-là, il arrive, comme il dit, très grandin. De fait, il est élégant et ganté. On le prendrait pour un homme du monde, ou presque. La dame ne le croit-elle pas? Il joue toujours le jeu de l'homme riche. Il aime briller, sinon faire briller l'or. La monnaie papier ne brille pas, mais il sait froisser négligemment les billets. Il arriva donc, ce tantôt-là, chez la dame. Elle ne lui a jamais livré que son prénom, Olga. Encore n'est-il pas très sûr que ce soit le vrai. Le nom de famille l'ignore encore et ne l'a pas demandé. Elle l'a prévenu. J'habite à l'hôtel. C'est si difficile de trouver un appartement à Paris. L'hôtel est à Montmartre, pas très loin de la rue Lepic. Il y a de ces coïncidences. Et puis Montmartre n'est pas grand. C'est, a-t-elle dit, un hôtel où je suis très connu. J'y fais tout ce que je veux. Le beau Max répète tout ce qu'elle veut. Il pense que c'est prometteur. Il a porté quelques friandises. Il n'est pas ému devant la porte, non. Max ne s'émeut pas pour une aventure féminine, mais il est impatient. Cette femme lui plaît. Il la désire. L'aime-t-il? Il n'ose pas se l'avouer. Il frappe à la porte. La voix d'Olga, qui est harmonieuse, répond « Entrez ». Il entre et enlève son chapeau. Ce qui n'est pas immédiat, à l'ordinaire, dans ses habitudes. Il dépose son petit paquet enveloppé de papier de soie et Olga, de sa plus gentille voix, lui dit « C'est gentil d'avoir pensé que je suis gourmande. » Il s'est assis près d'elle, tout près d'elle. Elle ne se recule pas, mais elle ne s'avance pas non plus. Et à un geste qui lui touche légèrement le coude, elle se lève. « Je vais préparer le petit goûter. » C'est tout naturel qu'elle dise cela. Puisqu'il était invité à un goûter, il faut bien qu'elle le prépare. Elle le dit. Elle ne peut pas dire autre chose. Le goûter d'abord, et puis ensuite. Précisément, le soir tombait et cette ombre complice paraissait propice aux hardiesses. La belle, pensait Max, allait se rendre certainement dans cette obscurité encourageante. Le lit, meuble essentiel, était à l'autre bout de la pièce. Lui, il était assis devant la table, la fenêtre derrière lui, la fenêtre de droite, dont les rideaux étaient tirés. Les rideaux étaient ouverts à la fenêtre de gauche. Max pensa que c'était très bien ainsi. Un reste de jour rentrait par là, éclairant vaguement le fond de la pièce. La dame dit soudain « On se croirait dans un tunnel. » Max pensa que dans un tunnel, on était justement fort bien pour lutiner une dame, et que c'était un grand dommage de n'y être pas resté. Car Olga avait tourné à un commutateur tout en disant « Je vais allumer parce que les hommes dans un tunnel... » Max entendait ces mots. Il reconnut comme une sorte de rappel de mots déjà entendus. Qui donc lui avait dit quelque chose comme cela? Et pourtant non. Il ne se rappelait pas que quelqu'un eût fait à lui-même une remarque de ce genre. C'était sans doute un propos qu'il avait dû surprendre et qui ne s'adressait pas à lui. Des mots qu'il avait gardés dans ses oreilles où il lui semblait qu'ils résonnaient encore. La dame d'ailleurs, par ces mots qu'elle disait elle aussi, ne le décourageait pas. L'allusion était claire. Ce n'était pas du tout l'acte délibéré d'une femme qui se défend. Elle ajouta même, « Les hommes, ils sont si polissons. » Cela, c'était presque une invitation. Et d'abord, il en fut charmé. Puis, presque aussitôt, il en éprouva une espèce de malaise, une gêne, qu'il ne pouvait définir et qui arrêta le geste ébauché qu'il tendait vers la jolie brune. Elle s'était assise gentiment à son côté devant l'assiette de gâteaux où elle avait mis ensemble ceux qu'elle avait préparés et ceux qu'il avait apportés. Et rien n'était plus simple et plus charmant que ce délicat profil. « Des gâteaux au moka, faisait-elle, je les adore. Et des millefeuilles au kirsch, ce que je préfère. » Il avait aussi entendu cela. Elle se rappela d'un coup. « Ah ça, toutes les femmes avaient donc les mêmes goûts ?» C'était bien possible, en somme. Mais tout à l'heure déjà, ses paroles, le petit goûter, la lampe allumée et le tunnel. Il ne s'étonna plus d'entendre. Ils sont rudement bons. Il ne s'étonna pas, mais il s'inquiéta. Il demeura silencieux et même immobile. Pourtant, quand il voyait ce front net, l'ovale pur de ce visage, cette noire toison retombant sur les épaules, « C'est vrai, pensa-t-il, qu'elle ressemble à Nora. » Et il s'étonna, à cause de lui-même cette fois, qui venait de donner ce nom de Nora, qui n'était pas celui de son ami et qu'il ne lui avait donné que pour une fois. Et quelle fois ? Elle s'appelait Irma. Qu'avait-il à la nommer Nora maintenant ? L'autre jour, déjà, en évoquant son absence, Nora ? Irma, soit. Mais il ne fallait plus penser à Nora. Il fallait penser à Olga, si proche de lui, et qui avait parlé si légèrement de la polissonnerie des hommes. C'étaient cependant des paroles qui le glaçaient. Il voulait chercher un dérivatif à cette angoisse qui montait. Elle lui versait du champagne. Oui, c'était cela, boire du champagne, boire, boire. C'est du bon. Il laissa retomber le verre. « C'est du bon. » Bien sûr, c'était du bon. Mais pourquoi avait-elle aussi dit cela ? Il sentit que sa raison se brouillait. Il fallait échapper à ce trouble. Seul un geste précis pouvait éloigner de lui ce sentiment qui l'étreignait. Il osa ce geste, Olga se recula et fit, avec quelque vulgarité qui n'était pas dans sa voix habituelle ni dans sa manière, « Assez. Je n'aime pas qu'on me tripote quand je suis occupé à manger ou à boire. » Ah ! Cette fois, c'était vraiment un langage qui avait, il ne savait quoi d'artificiel. Un langage fait exprès pour lui. Peut-être qu'il rêvait seulement tout cela. Mais oui, il allait se réveiller et dire, assis sur son séant, « Quel cauchemar, quelle bête de cauchemar !» Et c'était bien, en effet, comme dans un rêve qu'il entendait maintenant cette voix effrayante. « Quand je vous ai rencontré, j'ai bien vu tout de suite que vous étiez quelqu'un de bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Banquier, avocat ?» Il la regardait, les yeux fixes. « Je suis fou, » pensait-il. « Oui, c'est cela, je suis fou. » Et il avait envie, une envie étrange de lui crier. « Ce que je fais, je suis souteneur, souteneur et assassin. Vous avez une belle épingle de cravate, c'est une vraie perle. » Comme à travers un brouillard étouffant où les mots lui arrivaient ouatés de brume, elle lui contait maintenant une histoire qu'il connaissait, qu'il reconnaissait. Un collier de perles volé dans un train. « J'étais en première. » « J'allais à Monte Carlo. Est-ce que vous connaissez Monte Carlo ?»« Non. Il ne rêvait pas, non, il n'était pas fou. Mais il se passait une chose terrible, une chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Comme si Nora s'était réincarnée dans cette fille qu'il avait tant souhaitée et qu'il épouvantait à présent. » D'un coup, l'obscurité se fit, il pensa. « C'était forcé, je m'y attendais. » Il pensa aussi que c'était épouvantable. « Ça ne m'empêche pas de boire. Ce coup-ci, on y est dans le tunnel. » Un tremblement l'avait pris. Comment ce passé remontait-il à cette heure ? Comment se pouvait-il qu'il vécût, qu'il revécût le crime ? À nos amours ? Il la devinait, debout, le verre en main, puis le reposant, manipulant sa cordelette de soie sur son peignoir rouge. Car il se rappelait maintenant, ce peignoir était rouge. Comment ne l'avait-il pas remarqué tout de suite ? Quelle évocation ! Dans quel monde sinistre se trouvait-il transporté ? Dans quel enfer ? Tout ce qui se passait, tout ce que cette femme disait, tout ce que nul ne pouvait savoir et qu'elle savait, tout cela était impossible est réel, cependant. » Une main légère caressait son cou, sa gorge.
« La cordelette ! La cordelette ! Il comprenait tout ! La cordelette ! Elle allait l'enserrer, le serrer, la poulie !»
Il entendait le grincement de la poulie. Il allait être soulevé, enlevé, emporté en l'air, au bout de la corde.
Au bout de la corde, comme l'autre, le vieux à la barbe blanche.
Ah ! Ah ! Ah ! Il avait poussé trois cris affreux, trois cris désespérés, terrifiés. Il s'abattait à terre, criant, hurlant,
« Grâce ! Pitié !»
Il jetait de ses poches des billets qu'il en arrachait à pleine poignée.
« Oui, c'est moi, c'est moi. J'ai tué le vieux, j'ai pendu le vieux. »
Il sentait, il savait qu'un homme était derrière lui, qu'il allait sortir hors des rideaux qui le cachaient et qu'il allait tirer la corde,
tirer, tirer, tirer. « Grâce, j'avoue, j'ai tué, j'avoue. »
La lumière était revenue.
Et un homme était sorti hors des rideaux, un homme qui avait bondi,
Paul Bar, qui lui passait les menottes. La porte s'était ouverte, des inspecteurs entraient.
« Vous aviez raison, » dit Cléomène, « vous l'avez eu, il a fait des aveux spontanés. »
Trois mois avaient passé. Paul Bar avait réglé d'autres affaires, s'était passionné pour d'autres mystères. Il avait appris, sans s'attacher davantage à cette nouvelle d'une affaire ancienne, déjà et pour lui terminer, l'arrestation d'Irma Cravant, connue dans l'affaire de l'assassinat de M. Doré sous le nom de Nora Mathieu, arrestation sans histoire. Elle était rentrée à Paris et avait tenté imprudemment d'obtenir avec de faux papiers un permis de communiquer pour voir son beau Max. Le jour de l'audience de la cour d'assises, où ils avaient comparu tous les deux, Paul Bar avait quitté la salle aussitôt après sa déposition.
« La suite, dit-il à l'inspecteur Cléomène, ne m'intéresse pas. Vous savez que quand j'ai pu percer une énigme, résoudre un problème, l'affaire est finie pour moi. »
Le soir, après le verdict, Cléomène avait tout de même couru au bureau de Paul Bar.
« Ça y est, fit-il, Max Kerek est condamné à mort. »
« Irma Cravant, dit Nora Mathieu, est condamné à 20 ans de travaux forcés. »
« Tiens, remarqua Paul Bar, comme Michel Hérault et Gabriel Bompard dans l'affaire Gouffet. »
Ainsi s'achève, aveu spontané, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corrie.